عطروك هوا مش ترجع وخاف من الولاد والديك ان جاتك وغطاك وزب جنك تلعلينا حتى من روحك يا انسان ركما تدين وتودان استغفر ريري بالشيطان تنحشر في زمرة الصالحين رفدوا كفوفكم يا سادة ندعي وخالق الاشياء يحن قلوب المخلوقات والدين يعيش مسطورين نختم كلامي يا الاخوان صلاة على سيدي الكوان محمد شارح الديان حبيب رب العالمين بجاه المصطفى المبرور ارحم بوخي طوعمو وجميع من سكنو القبور دينا يا حنان مسلمين اسماعيل الهواوي مغمار الوالدي طايف فرحان يرجع القدوس المنان يلطف بينا يوم وقوفينا عيب عليكم يا غافلين كبرتوا وقهرتوا الوالدين بالعصا ولسانكم شاتمين نسيتوا صايتنا بينا
Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville, l'émission qui vous vient un samedi sur deux de 10h30 à minuit avec vous à l'animation Wahid. Bonsoir Wahid.
Bonsoir Lamine.
Accompagné par Lamine. Et bien donc ça va être une émission à sujet varié comme on vous a habitué ces dernières semaines. Wahid, donc on va parler de plein de sujets.
Entre autres du sujet du niqab qui a fait parler de lui ces dernières semaines ou ces derniers jours, au sujet de l'étudiante qui a porté le niqab dans sa classe, dans une classe donc de francisation et qui a été expulsée. Ce qui fait qu'il y a eu une intervention des différents médias, des différentes personnalités, des différents intervenants au sujet de cette affaire qui nous a rappelé un peu les commandements raisonnables d'il y a deux années. Nous allons parler bien évidemment du sujet du député du Parlement palestinien, le militant pour la paix Mustafa Barghouti, à qui on a refusé donc le visa ou on a dit que le visa lui a été octroyé sur le tard donc et donc il a annulé sa visite au Canada. Nous allons parler bien évidemment de l'ouverture du festival culturel nord-africain à Montréal le 26 mars et nous allons commémorer bien évidemment le 19 mars les accords d'Évian qui ont annoncé le cessez-le-feu entre l'occupation, donc le régime d'occupation français et le Front de Libération Nationale. Et bien évidemment, en mars, le 15 mars 1962, il y a eu la mort, l'assassinat par l'organisation de l'armée secrète française de grand écrivain Mouloud Feraoun. Et nous aborderons bien sûr bien d'autres sujets qui intéressent la communauté maghrébine et algérienne en particulier au Canada et à Montréal.
Édition récente, Khaddam Bilal.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb avec vous à l'animation Lamine et Wahid. Comme Wahid l'a bien annoncé, nous vous proposons plusieurs sujets. Donc on va commencer notre émission par la question qu'on appelle la question du niqab, donc qui a commencé suite au renvoi d'une immigrante qui voulait porter le niqab et que le ministère de l'immigration l'a exclue des cours de francisation qui sont censés aider les immigrants à s'intégrer, donc à adopter les valeurs. Et pour la raison évoquée qui était pour des raisons pédagogiques, puisque le niqab, selon le professeur, ne permet pas donc d'avoir une relation entre l'enseignant et l'étudiante de façon à ce que l'enseignement du français soit correct. Bien sûr, après ça, un grand débat a eu lieu qui a commencé comme d'habitude au niveau des médias et qui s'est élargi à la classe politique et même l'opposition, donc le Parti québécois, avec la présidence de Mme Pauline Marois, a demandé à ce que ce débat soit plus élargi et a même critiqué le gouvernement de ne pas aborder cette question d'une façon générale. Il y a même des personnes politiques et aussi des personnalités médiatiques qui ont demandé donc à instaurer une loi qui interdit le niqab dans la voie, donc dans les places publiques.
Moi, je voudrais donner de plus amples informations. Donc, la ministre de l'immigration québécois, Madame Yolande James, a révélé que l'étudiante égyptienne Naïma Atef Ahmed, d'origine égyptienne, a été une nouvelle fois expulsée d'un cours de francisation auquel elle voulait assister tout en gardant son niqab. Je cite la ministre, « La madame a été rencontrée ce matin et on lui a très bien indiqué qu'on doit voir le visage de la personne quand on veut assister à des cours de français. Il n'y a pas de compromis sur cette question-là », a expliqué la ministre. Par contre, la députée péquiste, c'est-à-dire du Parti québécois, députée d'opposition, Mme Lise Baudouin, a dit « Combien d'années encore le gouvernement gérera-t-il ainsi au cas, par des décisions arbitraires, des questions telles que celle-là ?» Mais la ministre de la Condition féminine du Parti libéral, donc au pouvoir dans la province, Mme Christine Saint-Pierre, a rappelé que le gouvernement va émettre très bientôt des directives concernant le port du voile intégral. Je voudrais citer justement les déclarations des principales responsables intéressés du sujet. Et bien sûr, sans m'étaler sur ce qu'ont dit les journaux et les commentaires, bien sûr, de la presse.
Le seul problème, Wahid, avec ce débat, est, qui démontre une autre fois une islamophobie, un racisme envers tout ce qui est arabe et tout ce qui est musulman dans nos sociétés, je dirais, dans nos sociétés québécoises en particulier, puisque le débat dans le reste du Canada est tout à fait différent. C'est la subjectivité du débat. Je pense que aujourd'hui on ne va pas parler de la pertinence du niqab et que c'est un problème au niveau de l'intégration ou non. Mais au-delà de ça, la façon dont la question a été traitée, c'est vraiment impressionnant. Quand on sait que d'autres problèmes qui touchent les femmes, vous savez que les femmes musulmanes au Canada sont les femmes les plus diplômées. Il y a 3 sur 5 femmes musulmanes au Canada, elles ont un diplôme universitaire. Le taux de chômage des femmes musulmanes au Canada est très élevé, et presque le double de la moyenne canadienne. Personne, au Québec et au Canada aussi, personne de ces soi-disant défenseurs des droits de la femme n'a levé le doigt depuis des années pour dénoncer cette situation. Quand on parle de la situation des femmes au Canada, il faut aussi inclure l'égalité femme-femme en termes de droit de d'emploi. Trouver un emploi et d'emploi. Quand on parle d'un taux de chômage très élevé au sein de la communauté arabe en général, musulmane et aussi maghrébine en particulier, ces mêmes personnes qui voudraient que ces gens-là, que les immigrants adoptent les valeurs, il faudra aussi qu'ils parlent de leurs problèmes. Et leur vrai problème, c'est un problème d'intégration professionnelle. Donc cette subjectivité qui est démontrée une autre fois, est-ce que réellement on est au Québec aujourd'hui en face d'une montée, d'un racisme, d'une islamophobie qui est alimentée par des pseudo-intellectuels qui prétendent défendre la démocratie mais qui veulent aussi imposer un point de vue particulier à cette laïcité, un point de vue particulier à cette à ce modèle d'intégration, puisque à part leur modèle, tout est rejeté, même celui qui est promu par des grands spécialistes comme M. Bouchard ou d'autres.
Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques personnes. Donc, le plus grave, comme tu viens de le dire, Lemine, c'est que, bien évidemment, il y a eu des femmes musulmanes, principalement des femmes musulmanes, arabo-musulmanes d'origine maghrébine, qui sont venues, donc, qui ont fait leurs études au cursus universitaire en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Mais le plus grave, Lemine, ce sont les femmes, c'est-à-dire les jeunes filles qui ont fait leur cursus universitaire ici au Québec, qui ont eu des diplômes québécois et qui se trouvent confrontées devant le problème, justement, de jeter leur CV dans les poubelles et de ne pas avoir l'occasion de rencontrer une personne pour une entrevue d'emploi. Et ça, une personne m'a dit, ce qui me fait peur, c'est que j'ai instruit, j'ai éduqué mes enfants, je les ai encouragés à aller chercher des diplômes ici dans les universités québécoises, et j'ai peur que mes enfants ne vont subir le même sort que j'ai vécu, et ça va être un échec doublement vécu de ma part, et avec les conséquences donc psychologiques, dramatiques, familiales, que cela peut arriver.
Peut engendrer. Le danger des enfants qui sont élevés dans des familles où les parents ont été marginalisés par la société d'une façon flagrante, puisqu'on comprend très bien aujourd'hui que le taux de chômage peut être expliqué partiellement par des raisons objectives en termes de process d'intégration, mais les raisons subjectives, des raisons de discrimination systématique établie par le système lui-même, et aussi discrimination d'ordre du racisme qui sont liées à des situations particulières, aujourd'hui ne sont pas à démontrer. Donc ça, c'est les vrais problèmes. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont rejeter les valeurs du Québec. Ce n'est pas le fait qu'ils soient différents quand ils arrivent au Québec, parce que la différence est une richesse, et les lois québécoises et canadiennes, et même les grands spécialistes du modèle interculturel ne voient pas dans le pluralisme un problème. C'est sûr qu'il y a des cas extrêmes, mais si les gens vont s'intégrer, vont trouver de l'emploi, vont bien vivre, automatiquement, ils seront québécois avec le temps. Tant qu'ils seront marginalisés, on aura beaucoup de problèmes.
Trouver de l'emploi, c'est trouver sa première dignité. pouvoir payer un logement, payer une voiture, payer ses factures. C'est la première dignité que peut avoir l'être humain. On ne parle pas de religion, on ne parle pas d'origine, mais on parle de dignité humaine. Et le pire dans tout ça, c'est que le problème du chômage est un problème structurel, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et c'est un comportement vis-à-vis de la communauté québécoise d'origine maghrébine qui est systématique. Je voudrais relever les propos de Mme Gisèle Halimi qui a interpellé une personnalité donc française au sujet de la guerre d'Algérie et qui lui a dit, mon général, la torture en Algérie a été systématique. Je ne voudrais pas faire un parallèle, mais je peux dire que le fait que les gens, que les Maghrébins, que les Maghrébines ne trouvent pas d'emploi, ça torture leur morale et ça les empêche de s'intégrer et ça donne un très mauvais exemple à leur progéniture et à leurs enfants dans le futur.
Et moi-même, je proposerais que chaque chômeur maghrébin ou maghrébine portera le niqab pour dire que je suis au chômage. C'est une façon d'exprimer son... Non, mais c'est vrai. Et là, on aura un grand problème parce qu'il y aura beaucoup de porteuses et de porteurs de niqab pour démontrer, ou même porter un brassard qui va démontrer le nombre de chômeurs au sein de la communauté.
Ça, c'est une bonne idée.
C'est une bonne idée parce que le problème, apparemment, ils ne le voient pas. Ils ne voient pas ce problème-là.
Je vois
juste une femme parmi 100 000 en 2001, peut-être plus. Musulmans qui portent une niqab, une seule femme parmi d'autres, peut-être une minorité de minorités. Ça, c'est un grand problème. Beaucoup d'encre, beaucoup d'émissions de radio, de télé pour débattre de ça. Mais les 28% de chômeurs ou même les milliers de chômeurs dans toutes les communautés, ce n'est pas un problème parce qu'ils sont cachés. Il faudra qu'ils se réclament chômeurs à travers le niqab. Ça va faire bouger peut-être leur problème.
Je voudrais pas parler de ça de ma petite personne, mais tu avais parlé un jour des chauffeurs taxi médecins. J'en fais partie. Je suis médecin, chauffeur de taxi. J'ai fait chauffeur de taxi, j'étais obligé de le faire. Et je l'ai fait justement pour essayer de préserver ma dignité. Et j'ai interpellé un responsable politique ici québécois. J'ai dit, monsieur, un médecin, un chauffeur de taxi, je suis devant vous. C'est une honte.
Non, mais
je crois pas que
la solution, tu portes le niqab. Ils vont parler de toi.
C'est une bonne chose.
Non, mais c'est si on va faire une journée.
Mais je crois, c'est pas une blague, je crois que je vais le faire.
Je pars sérieusement. On va faire une journée, comme en France,
ça va
le 1er mars,
oui.
Une journée du niqab. Comme ça, on va parler du chômage, comme on traite aujourd'hui la question d'une seule personne. Le Premier ministre est interpellé, les médias, les grands médias du Canada et du Québec parlent de ça. Et on parle d'une seule personne. Là, on a 28 000 sur une base de 100 000 maghrébins. On parle de 28 000 chômeurs, ou 20 000. Là, avec 20 000 porteurs de niqab, peut-être que la question du chômage sera d'actualité. Je me rappelle très bien qu'en 2008, quand le taux de chômage qui a été déclaré, en fait, quand les Statistiques Canada avaient donné les résultats de son étude statistique concernant le taux de chômage, les médias ne voulaient pas parler de ça. C'était quelque chose, c'est comme si c'était une question qui arrivait en Afrique ou en Algérie ou au Maroc, ou c'était loin, c'était pas un problème qui nous concerne.
Anodin.
Oui, exactement. Donc la solution, peut-être que si les chômeurs vont porter le niqab, ça va attirer l'attention des médias et des hommes politiques et femmes politiques.
J'ai une question pour toi, Lamine. La victimisation, les gens, certains médias un peu scrupuleux, je vais pas les citer, vont nous accuser de faire de la victimisation, Lamine, ton affaire là.
Non, c'est pas une question de victimisation. Parce que pour la simple raison qu'actuellement, des médecins qui sont chauffeur de taxi, avec tout le respect que j'ai pour, parce qu'il rend service à toute la société. Un chauffeur de taxi prend des risques, il est là le soir quand les gens veulent se déplacer, il est à leur disposition. Mais c'est un gâchis pour le Québec, c'est une perte pour le Québec et pour l'humanité, parce que c'est des personnes qui ont coûté, ça a coûté de l'argent pour former un médecin, qui on lui donne pas sa chance d'exercer la profession pour laquelle il a
été. Et d'aider les citoyens.
Exactement.
De servir les citoyens québécois.
Avoir des ingénieurs, avoir des médecins, avoir des architectes qui font autre chose que ça, c'est un gâchis pour le Québec et pour les communautés culturelles. Donc, ce n'est pas une question de victimisation. Oui, c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité. Beaucoup de taux de chômage, il y a une grande marge de taux de chômage qui peut s'expliquer par un problème qui est lié à la façon de rechercher un emploi. Mais il y a une grande partie qui ne peut être expliquée et qu'on a plusieurs fois démontré à plusieurs niveaux que par une discrimination du système lui-même. Donc le système est un système discriminatoire. La façon dont les ordres professionnels fonctionnent, c'est discriminatoire. Et on sait très bien qu'ils sont en relation directe avec un lobbyisme pour protéger...
Une caste.
Exactement. Et aussi, il y a une discrimination qui est liée au racisme, qui s'exprime. Et les cas qui ont démontré à travers le changement de nom d'un CV ne sont aujourd'hui connus au Québec et en Occident en général. On va prendre une petite pause musicale pour donc conclure sur notre sujet du niqab. Et après ça, on va aborder un deuxième sujet, ça serait celui de...
Mustapha Barghouti, le député palestinien à qui on a refusé ou on a retardé l'octroi du visa, donc qui a annulé sa visite prévue au Canada.
Red Sun Edition te présente Bilal. Mondial, mondial, sahbi.
Come on. Cette année, les expositions célèbrent leur 50e anniversaire d'existence au Québec. 50 ans! 50 ans de projets plus inspirants les uns que les autres. Cette année encore, venez découvrir des projets extraordinaires en compagnie de jeunes passionnés. Visitez l'Expo Sciences Belles, finale régionale de Montréal, du 25 au 27 mars, au Collège Jean-Eudes à Montréal. Les Expos Sciences au Québec, vous aussi, soyez de la fête.
Les productions Nuit d'Afrique présentent la 4e édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 29 avril, tous les mardis et mercredis, au club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez nombreux découvrir, apprécier et appuyer plus de 200 artistes originaires de 22 pays différents. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com.
En 24 heures, on peut se rendre en Floride en taxi. En 24 heures, on peut devenir propriétaire d'un véhicule. En 24 heures, on peut se simplifier la vie.
En 24 heures, FinTaxi peut vous aider à financer votre permis de taxi en plus de vous offrir une multitude de services sous un même toit.
Nous vous proposons des conditions avantageuses, une démarche simple et facile, un service courtois et des délais très courts. Pour en savoir plus, appelez-nous au 514-353-2757. 514-353-2757 ou visitez le site fintaxi.ca. Avec FinTaxi, prenez la direction de votre réussite.
Le Festival culturel nord-africain de Montréal présente le deuxième printemps culturel nord-africain de Montréal, le rendez-vous du cinéma, de la littérature et de la musique du Maghreb, du 26 mars au 10 avril 2010 dans le quartier Côte des Neiges à Montréal. Au programme Littérature avec le lancement du 12e Maghreb du Livre de Montréal en partenariat avec l'Espace du Livre francophone et la librairie Olivieri. Invité d'honneur, l'écrivain et poète Anwar Ben Malek. Du cinéma avec des films d'ici et venus du Maghreb aussi. De la musique pour la clôture du printemps culturel avec l'ensemble des amis de la musique andalouse de Montréal. Pour plus d'informations et programmes détaillés, www.maghrebculture.com. ou 514-466-1300. 514-466-1300.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb avec vous à l'animation, donc Wahid et Lamine. Wahid, on a parlé de la question du niqab et comment ça a été traité par les médias et aussi les hommes politiques québécois. Et à ce niveau-là, avant de clore ce sujet, je voudrais quand même donner un commentaire personnel sur l'attitude du Parti québécois qui nous déçoit de plus en plus. Un parti qui est, en fin de compte, après que le Québec s'est débarrassé d'une façon élégante aux dernières élections de l'ADQ, apparemment le PQ est en train d'adopter les mêmes la même idéologie sur la question de l'identité que l'ADQ. Et je pense que René Lévesque serait vraiment très déçu s'il était aujourd'hui vivant, voir un parti qui prenait la démocratie, la liberté, le pluralisme, aujourd'hui adopter une politique discriminatoire dans sa vision du Québec et surtout d'un Québec souverain.
D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Bouchard a tensé violemment et d'une manière véhémente Madame Pauline Marois, et il lui a annoncé dans une déclaration qui a été relayée par les médias qu'elle faisait fausse route et qu'elle trahissait les principes fondamentaux du Parti québécois, à savoir l'ouverture vers le monde et justement l'intégration de toutes les communautés et tous les arrivants et tous les amoureux du Québec. Donc Bouchard n'est pas un immigrant, Bouchard n'est pas un pauvre malheureuse maghrébine qui est en train de chercher du travail. Ce fut un grand premier ministre et un dirigeant donc de charme et qui a remis à l'ordre Madame Pauline Marois. Et je pense que l'entourage de Madame Pauline Marois la conseille d'une manière très très décontenancée. Et je pense que si elle continue comme ça, elle va prendre le chemin de monsieur de la DQ, elle va se retrouver peut-être dans les médias quand monsieur le président de la DQ, Mario Dumont, est en train donc d'animer une émission dans une télé donc régionale, dans une télé de québécoise. Ce sont des choses que nous devons dénoncer. Nous ne sommes plus des Maghrébins, nous ne sommes plus des immigrants, nous sommes des Québécois par entière. Nous n'allons pas attendre 50 ans pour qu'on nous reconnaisse notre québécité et qu'on nous reconnaisse notre citoyenneté canadienne.
On va prendre un appel, on rappelle notre numéro de téléphone qui est le 514-495-2597. Allô, oui, bonsoir, je suis Mana.
Allô, salam alaykoum.
Wa alaykoum salam, je suis Mana.
C'est Madame Sourad de Montréal.
Oui, tfadli.
Salam alaykoum, Mana, je vais parler aujourd'hui la question du niqab hadi. Tout à l'heure, vous avez abordé un sujet qui est très sensible, qui touche à peu près 99% des femmes maghrébines ici à Montréal. Et c'est le travail, le problème du décrochage d'un emploi ici à Montréal. Et ça, c'est à cause du voile.
Oui, oui, Nisma, bien sûr, t'fadli.
Voilà, et tant que le problème de niqab ou l'islamophobie et tout, je ne pense pas que les femmes maghrébines un jour vont décrocher un emploi au sein des entreprises publiques québécoises.
Mais Madame Souad, je voudrais juste à travers vous, est-ce qu'une femme qui se sent rejetée parce qu'elle a ses convictions religieuses et c'est son droit et c'est les valeurs de la charte donc des droits de la personne au Québec, est-ce qu'elle pourra penser à adopter d'autres valeurs du Québec si elles se sont rejetées d'un point de vue professionnel? C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que les gens se sentent aujourd'hui se sentent rejetés de la société.
Chouf, monsieur, personnellement, je porte le voile et j'accepte pas d'enlever mon voile pour décrocher un emploi ici au Québec.
Non, mais mon point, le fait qu'à cause de votre voile, vous vous sentez rejeté.
Je me sens rejeté. Oui, et exactement, je me suis sentie rejetée depuis la première année où j'ai commencé à chercher de l'emploi. Et bon, j'envoie mon CV. À chaque fois, j'ai une réponse. J'ai passé à peu près 15 entrevues depuis que je suis ici. Je suis médecin de formation, médecin vétérinaire. Et à chaque fois que j'envoie mon CV, ils voient le CV, je suis rappelée. Et pendant l'entrevue, on vous rappellera, madame. On vous rappellera, madame, il n'y a pas de suite. Et c'est à cause, moi, je suis sûre et certaine que c'est à cause de mon voile. Et donc, enlever mon voile pour décrocher un emploi dans ma spécialité, non. Mes convictions religieuses, je ne peux pas être contre mes principes. Alors, j'ai dû changer carrément de spécialité et me tourner vers un autre emploi pour garder mon voile.
Merci beaucoup. Est-ce que vous sentez que vous faites partie de la société québécoise et que le Québec vous ouvre les portes pour s'intégrer?
Je suis pas très optimiste, mais pour mes enfants, moi je me dis toujours que j'ai sacrifié pour eux. Et j'espère qu'à l'avenir, mes enfants n'auront pas le même problème qu'on a eu nous ici. Puisqu'ils sont élevés ici et fréquentent les écoles québécoises, j'espère qu'ils n'auront pas ce problème.
Madame
parce qu'on
Souhaite.
Sera vraiment choqués, déçus de tout ce qu'on a fait pour eux. Finalement, ça n'a abouti à rien.
Madame Souhaid.
Oui.
On prend un parallèle d'une communauté qui a vécu ces mêmes problèmes, la communauté maghrébine en France.
Oui,
les immigrants, donc les parents ont eu des problèmes, ils croyaient que leurs enfants qui ont fait des études dans les universités, les instituts français auraient plus de chances de réussir. Et Madame Souhaid, vous savez quel a été le résultat? C'est que ça a été la même chose. Un ouvrier.
La France, c'est encore pire parce que le voile, il n'est même pas toléré dans les écoles. Ici, on est chanceux que le voile est toléré. Là-bas, c'est encore pire.
Merci beaucoup pour votre appel. Donc, on rappelle notre numéro de téléphone qui est le 514.
Merci, monsieur.
Okay,
allez, bonsoir.
Ok, bonsoir, Epsilama. Donc, 514-495-2597. Une autre affaire qui n'est pas en relation directe, mais aussi, vous pouvez la lire sur Canoë. Un Algérien étudiant à l'UQAM, il était en train d'attendre pour payer ses frais d'inscription. Et là, les agents de sécurité arrivent, il est accusé, il est traité comme un terroriste, parce qu'ils avaient des indications qu'il y avait quelqu'un qui avait les cheveux noirs, avec une veste noire, et qui portait une ceinture d'explosifs. Bon, on peut comprendre la réaction des fois difficile des agents de sécurité, des policiers dans une situation pareille, mais l'étudiant en question a porté plainte, est en train de porter plainte contre l'UQAM parce que pour lui, la façon dont il a été traité, c'est une façon de profilage racial, puisqu'il mentionne que d'autres personnes portant la veste, des vestes noires étaient autour de lui, et il a été, c'était le seul qui a été visé par la police. Et la façon dont il a été traité, c'est une façon très brutale. Donc un autre cas aussi, Wahid, la question du profilage racial. C'est sûr que le débat dans les médias québécois autour de la communauté musulmane va engendrer des problèmes et des réactions des fois démesurées de la part des services de police, parce que les policiers sont aussi des citoyens qui peuvent être influencés comme tout le monde par le débat public. Et quand des leaders politiques ou des leaders donc d'opinion dans les heures de grande écoute font des déclarations des fois racistes, ça a un impact sur tout le monde, et une des conséquences, ça peut être des comportements de ce genre.
Lamine, un policier, un sapeur-pompier, un ouvrier, un col bleu, un col blanc de la mairie de Montréal ou dans une entreprise ici au Québec, il travaille, il finit son shift, après 18h, bon, il ouvre la télé, il écoute ce qu'on va lui dire dans les journaux télévisés, ou une personne qui va au travail, il allume sa radio, 98, je ne vais pas citer donc la radio, etc. Et quand on entend certains journalistes, vedettes, entre parenthèses, vociférer leur haine, vociférer leur charabia contre tout ce qui est musulman, tout ce qui est islamique, tout ce qui est arabo-musulman, maghrébin, moi j'en ai la nausée. Chaque matin, j'ouvre la radio, j'écoute ça, une certaine dame qui parle de nous, c'est intolérable, ce qui fait qu'il y a un conditionnement délibéré, systématique de l'opinion publique au Québec, qui fait que qu'il y ait cette intolérance et ce rejet au niveau de, justement, de l'emploi à la mine. Ça, il faudrait le dénoncer. Certains gourous des médias doivent être dénoncés.
On y va avec les appels. Bonsoir, Shkoun Mahana.
Allô?
Oui, bonsoir.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam, Shkoun Mahana, khouya.
Mohamed Maak, khouya Lamine.
Tfadal, khouya Mahana.
Yatik sahanta wa wahid ala khouya hala. Albak, sur le jamais, c'est ce qui m'a raconté, parce que tout à l'heure, vous avez parlé à ce sujet. Donc, je ressens Lamine d'antan que je connais déjà auparavant. Wahid. Je sais pas, je suis le parent de la fille qui vient de disparaître. Je sais pas si vous l'avez entendu cette semaine ou bien.
Oui, Inch'Allah, Inch'Allah.
Je sais pas, donc c'est une fille qui vient de disparaître le vendredi passé. On a annoncé ça aux policiers. Heureusement que le fil arabe a fonctionné mieux que les policiers, mieux que leur, leur armada. Ils n'ont pas trouvé la fille, mais heureusement la fille a été retrouvée. Elle est bien chez ses parents.
Alhamdulillah.
Mais la cause qui a fait fuir cette fille, c'était suite à un sujet très très important, c'était le niqab. Son père dit ne le faites pas, mais elle insiste de le faire. Ça, c'est une amalgame que peut-être personne ne comprend pas. Ok, donc moi je ne rentre pas dans les détails parce que moi j'ai une vision que parce qu'on a un truc tellement c'est comme on dit impression qu'elle est vécue juste à Québec. On a vu ça, j'ai été même à Toronto en récupérant ma fille à la mosquée de Toronto à Omak. Donc c'est eux qui l'ont pris en charge. On a discuté pour assiduer à dire la chose. En même temps, je n'ai pas tout là, dans le sens que ça, je le sais que c'est une adolescente. Elle a compris une chose, que toi, en personne, peut-être Lamine ou bien l'élégant qui connaissent c'est tout, vous faites la théologie et tout. Moi, je nie pas l'existence du niqab au niveau de Fiahed Sahaba il akhiré. Mais je dis ça dans le sens que Bnisbadia, c'est le hijab ou l'ahm. ولكن الفتوى لكل مقال من مقال نحن رانا عايشين في كيبك دونك سي بيان مانيش عايش في موقع احسن من ذلك لذلك الامر سمنا الان القضيه ماشي قضيه نقاب اون سي كو ليسبري québécois ليسبري سي كوم سي لو بان كي لا مانون دونك باش نتفقوا مليح القضيه ماشي قضيه كامل نقاب سي جوست فور ديريفي نوتر ليسبري qui m'a la communauté maghrébine. Moi, j'ai tellement aimé la proposition de Koultaha Mkoubilat Lamine. C'était que tout le monde mette le niqab. C'était pas pour le niqab en lui-même, pour dire, dénoncer autre chose pire que le niqab. C'était le travail que nos confrères, ma cache de ma fait. On t'a la balle que les détails sont là.
Exactement.
Que là, étant donné Nta ou la Wahid ou la d'autres personnes qui sont là, il faut se mettre debout, ça. Il nous faut des leaders dans ce sens, parce que ni les mosquées, ni d'autres, mais c'était vous en tant que... On peut dire que vous êtes l'avant-garde pour les autres, parce que moi, pour faire une association sportive, on m'a interdit pour faire ça, parce que, en disant qu'il y en a d'autres, donc ils peuvent rajouter. Qu'est-ce que c'est ça? Donc même, si on parle de multiparquisme, il n'y en a pas, même pour multi-association, on ne peut pas le faire. Ça, on fait passer. L'essentiel, ce que je veux dire, mon frère, bon, parce que tellement je suis sous l'émission, depuis 4 jours, je n'ai pas dormi, on a trouvé la fille, alhamdoulilah, mais ce que je veux dire, que vous ne cessez pas de parler comme il est en train de parler de Drizak et le gars de Richard Martineau et d'autres qui ressemblent à ce gars qui m'appelle Moukbilat Wahid. J'ai envie de vomir. On allant travailler à Drémonville à chaque fois, longtemps à midi, j'ai failli faire un accident parce que c'était la haine qui poussait. Donc, c'était pas le niqab, en fait. C'était toute la communauté, toute notre race, peut-être toute notre même origine, dans le sens que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne nous acceptent pas. Maintenant, je suis tellement persuadé que ces gens-là, même où l'aident, on a un accablement, parce que nous même qui m'appelle Moukbilat Wahid, même taxi, n'importe quoi, on l'accepte. En disant que il y aura un avion pour nos enfants, parce qu'on a dit qu'on allait où l'aident. Pourtant, on n'est pas âgé qui dit non, on espérait des diplômes, soit un Babzouar, soit d'autres gars, c'est des universités très reconnues. Ils ont formé, mais qui dit c'est un domaine très limité, comme il a dit tout à l'heure, c'était des lobbies. On a compris la chose. On fait, il n'y a pas de problème, c'est que vous l'avez dit. Mais maintenant, je suis persuadé que si ça reste comme ça, mais 2022, on n'aura jamais une Nadia ou une Sarah, on va la trouver à RD. Comme il a dit quelqu'un, il m'a dit. J'ai travaillé à certains moments, je te donne juste pour ne pas prendre l'antenne à d'autres. À certains moments, j'ai fait taxi pendant 6 mois. Un touriste, il m'a dit que mais le niveau est très élevé des taxis chez vous, à Canada, au Maroc. Je dis parce qu'il y en a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, ils ont élevé le niveau des taxis. Parce qu'auparavant, leur taxis, c'est comme un cocher. Allez, dans le sens. Mais maintenant, il trouve quelqu'un, naturellement, qui discute, il sait à quoi il parle, dans tous les domaines, il lui parle sur l'industrie, sur l'économie, sur la politique. Ça a étonné un touriste, il n'y en a pas un seul. Parce que je vais faire juste une petite comparaison pour terminer. Je vous laisse peut-être vous me poser une question quelconque, que ce truc-là n'existe pas, c'est vrai, dans l'autre Canada, parce que ça, c'est pas le Canada qu'on est actuellement. On est tellement opprimé, même dans nos valeurs, que peut-être moi, j'accepte l'intégration, mais quel genre d'intégration que vous, si vous voulez.
Non, mais en plus, Mohamed, dans le même sens, je voudrais juste dire quelque chose qu'on a cliqué directement à travers vous, les auditeurs.
Oui.
Personnellement, je pense qu'il faut qu'on soit très critique envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des problèmes, en tant que communauté arabo-musulmane, on doit faire beaucoup d'efforts. Mais là, actuellement, personnellement, je suis arrivé à la conclusion, il y a des gens racistes qui veulent pas de la communauté, et même si on veut s'intégrer, ils veulent pas de nous.
Ils ça, veulent c'est... pas. Ils
actuellement,
veulent pas.
Actuellement, je suis arrivé.
Je vais donner des exemples, ils savent, où c'est des gens-là, ces gens-là, pour moi,
moi, je suis arrivé à cette conclusion. Actuellement, je suis arrivé à cette conclusion parce que même, où les deux commissaires à la commission, leur rapport était plus ou moins équilibré, critiquable. Actuellement, on veut même les lapider, ces gens-là, parce qu'ils sont pas d'accord avec un uniformisme, une façon de voir la laïcité, une façon de voir leur démocratie.
Deux points de juste pour ces gens-là, non. Donc, d'ailleurs, allez-y juste ouvrir à chaque jour, à midi, vous allez trouver ce monsieur de Trida qui ne cesse pas, à chaque fois il est en train de dénigrer, même il allait au loin de là. D'ailleurs, j'ai dit, peut-être, moi personnellement, je n'ai rien contre les homosexuels ou bien des trucs. C'est un truc qui correspond, je suis dans une société mixte et telle,
exactement.
Donc je l'accepte telle qu'elle est, donc c'est mon point de vue, je le garde pour moi. Ces gens-là, d'autres, ils ont leurs droits, sauf un arabe ou musulman, il n'a pas son droit. C'est juste du faux. Et ce que j'ai peur maintenant, parce que donc, tant qu'on a accepté la situation, on a dit, peut-être, bon, on n'a pas eu une autre chance ici. On attendra 10 ans, peut-être il y aura une autre génération qui va relever le défi. Mais comme il a dit tout à l'heure, Wahid, d'ici 2022, on aura certes des enfants qui, et peut-être ils vont étudier à Guy Concordia,
à Mohamed, juste parce que
à McGill et tout, mais toujours, mon enfant, il, ça, déjà, j'ai un enfant, il s'appelle Wahid. Donc ce Wahid-là, son nom, il va le suivre. Donc on ne peut pas lui changer le nom.
Et c'est
même
pour
s'il
ça...
a une culture québécoise, et il c'est... a un fondement islamique ou bien maghrébin, c'est sa culture, toujours le nom va le suivre.
Et c'est
donc,
pour ça...
ces gens-là, il faut qu'on soit unis dans le sens que vous, il y a une espérance qui s'incombe personnellement sur vous deux, Wahid et toi, peut-être Lamine, entre mes degrés, il y a d'autres que vous devez faire quelque chose, mobiliser. Et moi, je suis prêt à donner mon témoignage dans n'importe action que vous demandez. Parce que j'ai vu avec mes yeux comment elle vit la communauté à Ottawa, comment elle vit à Toronto.
Merci beaucoup, Mohamed. Il y a d'autres auditeurs qui attendent. Yatek Saham pour le témoignage. Je sais. Alhamdoulilah.
C'est maintenant que j'ai reconnu mon ancien ami que je connais déjà à l'époque, au Polytech. Merci à
vous.
Salam alaikum.
Allô, oui, bonsoir, je suis avec nous.
Oui, l'Akhdar.
T'fadal, khoya l'Akhdar.
La vérité, ça commence par vous, les médias, pour commencer, parce que j'ai remarqué le temps d'antenne Taxi Maghreb, il est pratiquement même pas deux heures. Puis d'autres cultures, ils leur mettent toute la nuit ou toute la journée, je comprends pas ça. C'est à vous, là, vous êtes instruits, vous avez les paroles qu'il faut, avec une douceur et tout ça, vous nous représentez, parce que dans la télévision que je vous regarde, vous montrez les plats, le couscous, les ci, les ça, ça commence les problèmes, de, comme vous dites, maintenant je vous félicite ce soir, parce que c'est ça la vérité. J'ai attendu longtemps pour, j'ai dit, ça se peut qu'un jour il va revenir, parce qu'à chaque fois que je vous parle, vous me coupez, ou bien vous faites des contradictions, vous pensez que c'est nous qu'on les accuse. C'est pas vrai, parce que le monsieur qui a été devant moi, j'ai visité Toronto et ailleurs, les musulmans, la vérité, ils vivent bien, bien. Même ils ont des émissions sur les émissions que vous voyez des fois au poste CTV et tout, sur l'islam, la tolérance, et puis ils montrent une belle image. Et nous, ici, parce que le Parti québécois, il copie la même chose que Sarkozy et les autres. La suite de la Suisse, sur le fils de Kadhafi, ainsi de suite. Donc ça repercute sur nos musulmans. Ça nous prend des gens instruits, comme d'autres qui sont à l'université, des enseignants, des profs, comme M. Atouf, des gens comme ça. Ça nous prend parler fort. Parce qu'à l'époque, loin, les Québécois, ils ont subi eux-mêmes des graves problèmes ici, au niveau des sionistes qui étaient là. Ils leur donnent l'interdit même de parler leur langue, là. Et nous, ici, maintenant, c'est notre tour, mais c'est à nous de se prendre en main, comme vous, là.
Merci.
Et les gens qui
sont autour,
vous nous, c'est-à-dire, défendez avec acharnement.
Merci
les médias,
beaucoup,
vous convoquez les médias et vous leur prouvez, là, que c'est quoi cette histoire. Le comédien Boubacar Diouf, ça, c'est un musulman sénégalais. Il est venu ici, il est rentré à Radio-Canada, ils lui ont changé complètement, il n'appelle plus Boubacar, il s'appelle Bokar maintenant.
Merci beaucoup, l'Akhdar.
Des fois, on envoie l'Akhdar, le CV, l'Akhdar. Il nous regarde agressivement.
Merci beaucoup, l'Akhdar. Il y a d'autres.
Ben, BC, oui. Bissala et tout.
L'Akhdar.
Vous
l'Akhdar.
Êtes venu ici, tout
l'Akhdar.
Ça. Et puis,
l'Akhdar.
Problème,
l'Akhdar. L'Akhdar, l'Akhdar.
C'est-à-dire, les femmes ici, ils ont.
L'Akhdar.
Ils veulent tous nous détruire nos femmes.
L'Akhdar.
C'est-à-dire, ils leur disent, vos musulmans.
Mais l'Akhdar, ils m'entendent parce que.
L'Akhdar,
ils m'entendent.
L'Akhdar.
Ok, je pense que l'Akhdar est parti, il veut pas arrêter. Donc, désolé à beaucoup d'autres auditeurs, je suis vraiment désolé pour permettre à un maximum de personnes de participer avec nous. Nerdou, un autre appel. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir.
Allô?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, je connais Mahana Khouya.
Vous m'entendez?
Oui, très bien, on vous entend.
C'est Abbas. Monsieur Kachouf, je vous parle au sujet du hijab. J'ai trois points au sujet du hijab. La femme qui porte le hijab ou le niqab, elle a tous les droits de le faire parce que n'y a aucune loi qui l'interdit par écrit. Elle dit là. Deuxièmement, le plus grand raciste, le plus grand salopard qui peut exister au Québec, c'est bien le journaliste Martineau.
Mohamed Khouya, je parle salopard.
Depuis les accommodements raisonnables, il n'a qu'un seul sujet en tête, c'est toujours les accommodements, la révision, et vous pouvez toutes les rubriques, les ententes, toujours le même sujet.
Il faut juste très il faut juste le critiquer, mettre le salopard.
Oui, c'est vrai, ça m'a échappé. Je m'en excuse. Troisièmement, j'ai une anecdote qui est réelle. Une anecdote, en 97, quand je suis venu, je suis parti dans une foire d'emploi sur la Bosse. Et pour vous dire un petit peu comment ça se passe ici, dans la Bosse, et on a été invité dans, on a été invité par un directeur d'école dans une, dans la, dans l'école. Il nous a parlé, voilà, nous avons une polonaise, elle a fait ça, et il me répète toujours la polonaise, elle est ici depuis 50 ans. Et je lui ai dit, depuis 50 ans, vous l'appelez toujours la polonaise, même pas par son nom, ou la nouvelle québécoise, néo-québécoise. Il s'est tué. Ça veut dire, dans tout ça, que vous restez 50 ans, un siècle, trois siècles, vous serez toujours la même personne pour eux. Donc, il n'y aura aucun changement. Concernant Mme Marois, Mme Marois a changé complètement de bord. Elle est sur le district de, elle était sur le district de Talion. J'ai toujours voté pour elle. Et il faut qu'elle sache que dorénavant, il n'y aura plus de PQ dans ma tête. Et j'espère que ceux qui m'entendent auront la même décision que moi. Parce que le Parti québécois, avant, il faisait un petit peu de quelque chose de positif envers tout ce qui est néo au Québec. Mais actuellement, il ne font rien du tout. Donc, pour moi, dans le vote, il faut que tous les Algériens et toutes j'espère que tous les Maghrébins qui ont le droit de voter, doivent aller voter et voter contre l'ADQ et voter contre le Parti québécois. Et voter, il y a deux partis, il y a le libéral. Le libéral, plus ou moins, il y a une défaillance dans son système, mais il est un petit peu plus logique. Donc, il y a le Québec solidaire. Donc, allez-y dans ce côté-là. Je suis partant. Moi, je suis partant. Entièrement, je suis partant. Parce que je vais vous dire une chose. Je suis 14 ans ici. J'ai de l'expérience. 20 ans en Algérie en tant qu'informaticien. J'ai fait une formation ici et je n'ai rien réussi depuis. J'ai même été harcelé parce que je voulais avoir un job dans la Banque nationale. On m'a traité d'harceleur. J'ai toujours le dossier ce dossier-là.
Il y a texte à Abbas.
Ok, là, on comprend. Bonne initiative.
Merci. Allô, oui, bonsoir. Je connais Mahana. Oui, bonsoir.
Allô?
Oui, bonsoir. Je connais Mahana, Khoya.
Ammar.
T'fadr, Khoya Ammar.
Je pose une autre question. Je veux connaître le root cause, c'est-à-dire la racine du mal. De ce problème qu'on a rien à se plaindre regard vis-à-vis des Québécois. Normalement, on a immigré en masse ici. Pourquoi on a fait cette immigration? On a un pays pour lequel Abba Ramdan, Ben Mehdi se sont sacrifiés. Ils nous ont donné un drapeau. Théoriquement, on doit travailler ce pays-là pour le faire et vivre mieux qu'au Québec. On est venu dans un pays, Hachak, je ne peux pas le qualifier, qui est un pays sous-développé. Et on a donné l'occasion à un peuple, le peuple québécois, pour lequel je ne sais pas expliquer pourquoi il lutte. On leur a donné l'occasion de nous traiter Kimaïdia. Mais si on a été incapable de régler les problèmes de notre pays, on mérite qu'à tout ce qui nous arrive ici. Où ça s'arrête là? C'est fini.
Là,
les gens mettent tout, ils ont donné leur vie. Et on a laissé des lâches diriger le pays vers à la dérive, un pays riche où tout le peuple il prend la barque et roule, où tout le monde s'en fiche. On joue l'ENA ou c'est les problèmes l'ENA. C'est pas vrai ça. C'est le root cause comme chez nous. On a un chez nous qui est meilleur que ici et on l'a laissé tomber. C'est ce qui arrive aux gens qui le sont.
Il y a Texas Hammer pour la participation.
Je n'ai jamais travaillé avec les entreprises québécoises. J'ai tout de suite compris ça. J'ai toujours travaillé avec les grandes boîtes US ou l'accord. Mais je n'ai jamais donné l'occasion à des lâches québécois qui, au lieu de, s'ils voulaient défendre leur langue, c'est mieux. Le Canada leur offre un plus grand espace. Je défendrai ma langue dans les plus grandes limites possibles, pas dans un petit bout de neige. Mais eux, ils jouent l'hypocrisie, ils veulent juste avoir des bénéfices du Canada, ils sont là à diriger tous les postes comme des mafieux, ils ne donneront jamais quelque chose. Moi, j'ai un ami, Je ne vais pas te donner son nom. Il est PhD du MIT. Il n'a rien, il n'a pas pu faire ici. Il s'est sauvé tout de suite.
Yatek Saha, merci beaucoup, Omar, pour la parole. Yatek Saha, on a un autre appel. Oui, bonsoir. Je suis avec
nous. Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam. Je suis
avec nous.
Tfadal, Hussein.
واحد القضيه الاخلاقيين انا اللي تنشوف بان المسلمين في تقليد ديال الضوء ديال ان حنا مظلومين غير الا بغيتي تشوف دابا بيناتنا حنايا ما بين اللي هو متشدد ولا هو معتدل واخويا النار شاعله بيناتهم واحد البارادوكس في الدول دابا الاسلاميه كاع اون جينيرال كون شي واحد اعترق شي ديال اخرى اللي هي من غير الاسلام غادي يحاربوه كون انه مثلا تيتبناو كل شهر جوج كنائس ولا ثلاثه ولا جوج ديور ولا ثلاثه في الدول الاسلاميه وغادي يهدموهم باركونت في الدول الاوروبيه كل شهر مش حد اللي المساجد تيداروا بحال واحد مطلق شعر لحيتو بحال واحد يدخل للجامعه عمره اكسبيلسوا ما عمره جراوه ما عمره حتى ما يصلي باركونت بالنسبه للنقاب اخويا واش كل اللي مخبي داك النقاب واش مراه ولا راجل واش شبح ولا شي انسان
مي حسين حسين
خصنا نكونوا شويه واقعيين ونعرفوا واش كاين خطا فينا ولا ما كاينش فينا
نقارنوا
ونحطوا روسنا
حسين
نعم اخويا لامين
بصح لو بروبليم واش كي سوبوز سي La façon, je pense que tout le monde est d'accord, plus ou moins, bien que les personnes sont libres de porter ce qu'ils veulent, mais ça, tout le monde est d'accord que peut-être niqab est problématique dans une société comme le Québec. Mais par contre, pourquoi les médias ont traité, le nombre d'articles, le nombre d'émissions, et personne ne parle, par exemple, de la problématique d'intégration du chômage chez les immigrants. C'est que c'est un petit peu cette subjectivité de focuser sur un détail, sur un cas minoritaire, un cas isolé qui devait être traité d'une façon très particulière, et peut-être que la décision du ministère, tout le monde est d'accord avec la décision, c'est pas ça le problème. Mais le problème, pourquoi les médias, pourquoi les hommes politiques, pourquoi Mme Pauline Marois n'a pas demandé, n'a pas harcelé le Premier ministre du Québec quand on a annoncé le 12 février 2008 qu'il y a 28% de Maghrébins au chômage. C'est une aberration.
Ils ont donné des remèdes. ولي ميديا في اوروب الامريك دولار هكا دايره يقدر تكون دجاجه غير والده جوج بيضات في شي بلاصه يديروا عليها مقاسين انا بالنسبه للنقاب حتى هو عطاو ليه وقته وهذا الشيء راه لي ميديا حافظين على هذا الشيء اون بلوس تالانتيغراسيون راه هضروا عليها شحال مره يعني كل حاجه تيعطوا لها وقتها ولكن حنا مسلمين كما قلت لك تنتقنوا مزيان الدور حنا اننا مظلومين صح طروزنا كون شي واحد جا تما وتيقول لنا بان خصكم تكونوا مسيحيين ولا يهوديين وغادي يحاربوه ما عرفش كي غايديروا ليه كاع هذه بعدا راه تعامل معاه بطريقه حضاريه ما جراو عليه ومشاو للاعلام حنا لا غادي نحركوا العصا ونحروا ليكسبوزيون
يعطيك الصحه حسين شكرا دونك vous êtes bien l'écoute de l'émission Taxi Maghreb je pense qu'on a débordé énormément sur la question du niqab et tout ce qui est autour. Il nous reste un autre sujet qu'on va traiter juste après cette pause publicitaire. Et on vous rappelle que vous êtes bien à l'écoute de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec l'émission Taxi Maghreb.
Le Festival culturel nord-africain de Montréal présente le deuxième printemps culturel nord-africain de Montréal, le rendez-vous du cinéma, de la littérature et de la musique du Maghreb, du 26 mars au 10 avril 2010 dans le quartier Côte des Neiges à Montréal. Au programme littérature avec le lancement du deuxième Maghreb du livre de Montréal en partenariat avec l'espace du livre francophone et la librairie Olivieri, invité d'honneur l'écrivain et poète Anwar Ben Malek. Du cinéma avec des films d'ici et venus du Maghreb aussi. De la musique pour la clôture du printemps culturel avec l'ensemble des amis de la musique andalouse de Montréal. Pour plus d'informations et programmes détaillés, www.maghrebculture.com ou 514-466-1300. 514-466-1300.
Les productions Nuit d'Afrique présentent la quatrième édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 29 avril, tous les mardis et mercredis, au club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez nombreux découvrir, apprécier et appuyer plus de 200 artistes originaires de 22 pays différents. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com.
Cette année, les Expositions célèbrent leur 50e anniversaire d'existence au Québec. 50 ans! 50 ans de projets plus inspirants les uns que les autres. Cette année encore, venez découvrir des projets extraordinaires en compagnie de jeunes passionnés. Visitez l'Expo Sciences Belles, finale régionale de Montréal, du 25 au 27 mars, au Collège Jean-Eudes à Montréal. Les Expos Sciences au Québec, vous aussi, soyez de la fête.
À l'écoute de l'émission Taxi Maghreb animée par Wahid El Amine sur les ondes de Radio Centre-Ville. Ce soir, on va rester avec nous comme d'habitude jusqu'à minuit. On a abordé la question du niqab qui nous a amené aussi à la question de la discrimination du chômage. Et il nous reste un sujet qu'il faut qu'on traite, un sujet très important, Wahid, peut-être un commentaire avant de passer au sujet ou...
Je voudrais vraiment faire un commentaire, un petit commentaire. Moi, ce que je dis, Lamine, et je te parle ici, non pas qu'on a, comme animateur, mais qu'on a un maghrébin, un immigré, et non pas un porte-parole, mais un ami des porte-paroles de la communauté arabo-musulmane maghrébine au Québec. Ça suffit, je dis, des Beria, des Kosygin, des Molotov, des Antropov, des Tchernenko et des Gromyko du Québec. À quand un Gorbatchev qui pourra nous libérer des affres des gourous de ces médias, de la presse écrite et audiovisuelle au Québec, qui sont des annonciateurs et des acteurs de caisse de résonance, des animateurs d'une caisse de résonance, d'une musique mortuaire, annonciatrice d'amoncellement de dégâts tels que l'exclusion, le délit de faciès et l'hydre innommable, le racisme. Alors, si il y a une initiative pour aller porter la burqa, pour aller parler un brassard noir, pour aller dénoncer ces gens-là, ces apprentis et ces sbires de Gorbatchev, moi je vais dire, si le brassard nous permet de mettre fin à la soviétisation de l'esprit au Québec, ici, des médias québécois, eh ben je suis partant, les
amis. Et dans le même sens, ça c'est plus au niveau fédéral, un pacifiste palestinien, membre du Parlement palestinien, quelqu'un qui a été nommé, il n'a pas eu le prix Nobel, mais il était nommé, donc il était parmi les nominés pour le prix Nobel de la paix. Et il devait venir à Montréal, à Toronto, donner des conférences et on lui refuse le visa.
Le réputé militant pour la paix, Mustapha Barghouti, Mustapha Barghouti, également député du Parlement palestinien, a annulé ses visites dans trois villes canadiennes. Il estime que le visa que lui a accordé le gouvernement du Canada est arrivé trop tard. Qu'en est-il? Monsieur Barghouti, un physicien récemment proposé pour le prix Nobel de la paix, a appris vendredi que son visa lui a été octroyé 2 semaines après qu'il lui en ait fait la demande. Dans le passé, a-t-il fait remarquer, il a reçu ses visas 2 ou 3 jours après en avoir fait la requête. Selon l'organisation ayant invité Monsieur Barghouti, les Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, les délais dans la livraison du visa l'ont forcé à annuler sa visite à l'Université de Toronto et celle prévue à Montréal et à Ottawa. M. Barghouti devait y rencontrer lundi les députés des partis d'opposition. Selon l'organisation donc organisatrice de ces événements, le gouvernement Harper, en retardant l'octroi du visa à M. Barghouti, cherche à museler tout intervenant voulant émettre des critiques à l'endroit du gouvernement israélien. M. Barghouti n'a toutefois pas voulu ajouter sa voix à celle du groupe.
Wahid, donc là, c'est une autre inquiétude qu'on a au Canada. Le Canada qui était connu dans son histoire par rapport à sa position neutre, sa position de promotion de la paix, sa position de promotion de la justice, se retrouve de plus en plus dans une position, je dirais, pro-israélienne. Israël, cet État qui encore maintient des colonies, qui construit donc des colonies dans un territoire reconnu par l'ONU comme étant un territoire occupé, un État qui est hors la loi par rapport à son attitude vis-à-vis des Palestiniens, que ce soit à Gaza ou dans tous les territoires occupés. Et malgré ça, de plus en plus, on voit le Canada qui a perdu du terrain de la neutralité, de la justice, pour devenir un gouvernement pro-israélien sur plusieurs points. Et essentiellement, cette dernière histoire confirme aussi cette attitude du gouvernement de Harper.
Bien évidemment, même les États-Unis, l'Amérique, donc on l'a vu avec la visite de John Biden récemment en Israël, on vient d'annoncer un grave désaccord entre le gouvernement américain et le gouvernement israélien au sujet de l'annonce de la construction de 1200 logements justement à Jérusalem-Est. Même les États-Unis, qui est le plus grand soutien donc d'Israël, ont exprimé leur désaccord profond avec l'attitude récente du gouvernement de Netanyahou. Et le gouvernement canadien n'a pas eu cette position. Alors il y a une question qui se pose, est-ce que c'est vraiment un appendice du gouvernement israélien ou quoi? Le gouvernement canadien est responsable devant ses élus, est responsable devant ses électeurs.
Et est-ce qu'on n'est pas dans une situation où actuellement critiquer des comportements inadéquats, inacceptables d'un point de vue démocratique d'un État, en l'occurrence on parle d'État d'Israël aujourd'hui, est devenu de plus en plus difficile au Canada? Il faut se rappeler que dernièrement, le cinéma Park a eu des pressions terribles parce que tout simplement il avait exposé des photos non falsifiées, c'est des vraies photos de Gaza, et il y a eu une pression directe sur l'administration pour retirer cette exposition qui était tout à fait légitime puisque nous sommes dans un pays légal, nous sommes dans un pays libre où les gens peuvent exprimer leur point de vue, et même si ces points de vue sont différents, ils ne sont pas en accord avec la politique du gouvernement. Mais avec ce genre d'attitude sur la question du visa, je pense qu'on a beaucoup de questions à se poser. Peut-être on fera juste une émission autour de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, critiquer l'État d'Israël au Canada est devenu un péché, est devenu difficile à être assumé? Le Canada qui avait des positions honorables sur toutes les questions de la justice à travers le monde. Wahid, il y a un autre sujet qui est très important qu'on doit aborder avant la fin de notre émission. C'est essentiellement la date historique pour l'Algérie, cessez-le-feu et aussi la mort d'un monument de la culture algérienne, culture francophone, qui a été assassiné par les terroristes français, donc l'OAS, qui était une organisation terroriste qui voulait utiliser la politique de la terre brûlée une fois que l'évidence de l'indépendance d'Algérie a été établi sur le terrain. On va prendre une petite pause musicale avant de donner donc l'occasion à Wahid de nous parler du 19 mars et aussi de la mort de Mouloud Feraoun.
كي تفطن هو تتغاشى وتندب خدك واللوم يا اللي كليت
المشموم يا اللي كليت المشموم يا اللي كليت المشموم أفضل واصحى من النوم يا اللي كليت
يا بابا حيا بابا حيا بابا حبيبي العب واربح رامي افتح مصروع وتخلط وتسيس وتصبر روحك وتنوم يا اللي كليت
المشموم يا اللي كليت المشموم يا اللي كليت المشموم أفضل واصحى من النوم يا اللي كليت
يا أصبع تعلمت تحط الحطة درت كوستيمة وقرا بطة وصرت تسلم شالوم يا اللي كليت
والظالم ولا مظلوم يا اللي كليت المشموم يا اللي كليت
لا يسرى لا عيش بيناتنا لا عشرة ما فيش بخشيش اليوم يا اللي كليت
مشموم يا اللي كليت المشموم يا اللي كليت المشموم عطر واصحاب من النوم يا اللي كليت
وحيدة دي الأغنية سي لا ديرنيير شونسون دو طاهر
اللي جاتنا مبسكرة
بسكرة طاهر السفير اللي خرج اغنيه لحمص ولا فول دونك سي لا ديرنيير شونسون اللي خرجها وحيد اون va parler du 19 mars et du 15 mars aussi
on va commencer par le 19 mars ce sont c'est une date historique qui a mis fin donc aux souffrances d'un peuple valeureux courageux le peuple algérien les accords d'Évian ont été le résultat de négociations entre les représentants de la France occupante et du gouvernement provisoire de la République algérienne présidé par Feu Ben Youssef Ben Khadda, donc formé par le Front de Libération Nationale durant la guerre de Libération Nationale. Ces accords sont signés le 18 mars 1962 à Évian, dans une ville française, sur le lac Léman, et se traduisent immédiatement par un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire algérien dès le lendemain. Présidé, la délégation du FLN a été présidée par Feu Krim Belkacem, l'un des ténors, l'un des plus grands guerriers, l'un des plus grands chefs historiques de la révolution algérienne, Feu Krim Belkacem, assassiné en 1970 à Francfort. Je voudrais saluer, au nom de tous les Algériens, le courage, l'abnégation, la ténacité et la témérité de nos parents, de nos ancêtres, qui ont permis à notre peuple et à notre nation d'être libre et de débarrasser des De Gaulle, des Louis Jox, des Bernard Tricot et de tous ces sbires et de ces militaires qui ont cru que le peuple algérien était un peuple vil et un peuple assivilé. Ce courage et cette résistance a été permis par des milliers, des centaines d'Algériennes et d'Algériens et parmi ceux-ci, un certain Mouloud Firaoun, comme tu viens de le citer, Lamine, un monument de la littérature, du courage et de la résistance contre l'occupant. Mouloud Firaoun fut un écrivain kabyle algérien d'expression française qui est né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel, en Haute-Kabylie, en Algérie. Il a été victime d'un assassinat lâche à Ben Aknoun le 15 mars 1962. Il est tombé donc par un assassinat donc perpétré par un commandos de l'organisation de l'armée secrète, cette organisation qui a annoncé une ère de terrorisme, une ère donc d'assassinat calculé et perpétré à l'encontre du peuple algérien. Le premier président du gouvernement provisoire le 19 mars a été Ahmed Francis et bien sûr cette période elle a été préparatrice pour le référendum qui a eu lieu le 3 juillet 1962 et qui a permis au peuple algérien fier et valeureux et courageux de retrouver son indépendance et c'est le 3 juillet 1962 que le drapeau algérien vert et blanc flanqué de l'étoile et du croissant rouge a été hissé par un autre kabyle colonel Feu Mohamed El Hadj à Sidi Ferruche en Algérie. C'est bien qu'on s'occupe de notre futur, de notre présent, mais on n'aura jamais de futur, on n'a jamais de présent gracieux et radieux si on ne s'agenouille pas et on ne respecte pas notre passé, à savoir la révolution algérienne.
Bien sûr, merci Wahid. Il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui on est le 20 mars et c'est une occasion pour dire donc bonne fête nationale pour le peuple tunisien aussi. Le 20 mars 1956, la Tunisie a eu son indépendance après donc plusieurs décennies de colonialisme français. C'était le 20 mars 1956. On y va en musique. Il nous reste quelques instants pour conclure avec vous. Je vous rappelle que vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. Avec vous, Wahid et Lamine. Tout à l'heure, vous allez avoir M. Michel Boulivard et l'émission Tambou Battant pour la communauté haïtienne.
ماشي ضربي تفلس من الشيخ السوطة نسرقو غي فيرس مين يتجني يتشاور نمشي ضربي تفلس اش حالي نرجع اقراتو
On arrive à la fin de l'émission Wahid. On va faire des remerciements.
Des remerciements à toutes celles et ceux qui nous ont appelés, celles et ceux qui nous ont écoutés, celles et ceux qui nous ont soutenus. Et bien évidemment, on va essayer d'en faire autant la prochaine émission.
Merci beaucoup Wahid Diatek Sahad. Donc, comme tu l'as bien dit, je remercie tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à minuit, tous ceux qui ont participé avec nous. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec l'émission Taxi Maghreb. Et bien sûr, notre ami Issa sera présent la semaine prochaine avec l'émission Montréal. Bas Wahid Diatek Sahad.
Salut Brassard, donc nous on jibouhom.
Là, donc mademoiselle, est-ce que n'est pas bon le Brassard? On va en faire un.
Ah, واحدة منهم بصح ما راح نجيبهم ولا واحد
non. نخدمهم حنا مادين
مغرب
كوميونيتي تاعنا
ما شاء الله.
Donc vous étiez avec l'émission Taxi Maghreb. On vous laisse avec la belle musique, le dernier album de Bilal, et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines et bien sûr dans quelques instants l'émission Tambour Battant avec notre ami Michel Bolivar.
Shaman.